C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Les plus récentes données sur l'incidence du VIH viennent de paraître en début d'année pour le Québec. Et on parle des données de 2023 qui paraissent en 2026. On n'a toujours pas celles de 2024. Et si on se fie aussi à celles pour le Canada et à l'échelle mondiale, nous n'allons pas dans la bonne direction. Pour bien comprendre ce que les chiffres révèlent, nous recevons Tanguy Edrich, qui est coordonnateur de la recherche communautaire à la COXIDA. Bienvenue à l'émission, Tanguy.
Bonjour, Denis Martin. Merci de m'inviter.
Oui, commençons par le portrait local. Au Québec, on a observé, donc, je le dis bien, en 2023, un total de 1110 cas d'infection enregistrés. Ce qui représente une hausse de 21 %. C'est quand même beaucoup par rapport à 2022. Il n'y a pas de données encore pour 2024. À l'échelle nationale, le Canada en 2023 rapportait, lui, une hausse d'à peu près 35 % des cas. Mais depuis, en 2024, ça a diminué de 3,3 %. Alors, comment on explique tout ça?
Oui, mais c'est une longue question. Je pense que ce qui peut s'expliquer aussi, c'est qu'il y a eu une chute du nombre de dépistages pendant la pandémie, donc 2021-2022. Je pense qu'on voit ça, c'est pour ça qu'il y a une augmentation.
Une chute des cas parce qu'il y avait moins de dépistages,
peut-être? Moins de dépistages, oui, c'est ça. Donc je pense qu'il y a eu des dépistages.
On rattrape
un peu. Et donc la stagnation qu'on voit après, je pense que ça s'explique par là. Je pense qu'on a rattrapé en 2023, puis en 2024, on commence à stagner un petit peu.
On devrait avoir moins de nouveaux cas au Québec en 2024, mais on n'a toujours pas les chiffres. Là, je ne pose pas la question aux chercheurs, mais c'est quand même surprenant que ça prenne autant de temps au Québec à avoir ces chiffres-là, alors que même dans des petits pays du monde, moins de ressources qu'ici, on les sort, les données, au moins un an après. Mais bon, on n'ira pas plus loin.
Oui, je ne peux pas m'exprimer là-dessus.
Bon, dans les données québécoises, on remarque que les 65 % des nouveaux diagnostics concernent des personnes arrivées au Canada depuis moins de 5 ans. C'est avec un délai médian entre l'arrivée et le diagnostic d'à peu près un mois et demi. Comment on peut expliquer ça?
Oui, en fait, je pense que ça peut s'expliquer assez simplement. Il y a eu beaucoup aussi d'immigrants en 2023. J'ai regardé Statistique Québec, c'est, je pense, 150 000 immigrants qui sont arrivés cette année-là. Et pour la plupart de ces personnes-là, il y a un test de VIH à leur arrivée au Canada. Donc, c'est ça les chiffres que l'on voit. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes avec un délai médian très, très court entre leur arrivée puis le diagnostic.
Bon, maintenant, on ne va pas rentrer dans le discours prévalent présentement, qui est très anti-immigration, mais comment on peut parler de cette hausse, comment on peut la contrer, cette hausse, sans tomber donc dans ce discours?
Oui, il y a plusieurs choses à voir. On ne sait pas aussi si c'est des personnes... Il y a un test, évidemment, à leur arrivée, mais on ne sait pas aussi s'il peut y avoir aussi de l'infection après leur arrivée sur le sol canadien. Il y a une étude en Europe où il y a eu 30 % des cas des personnes migrantes qui ont été nouvellement diagnostiquées, qui ont eu leur infection post-migration. Il y a une étude au Québec qui est en train de se faire justement pour avoir ces chiffres-là, parce que les données de l'INSPQ ne nous le dit pas pour le moment.
Il y a quand même, je me permets de parler, quand même, ce qu'on peut dire relativement une bonne nouvelle, c'est que les cas d'infection chez la population qui était la plus ciblée, qui étaient les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, ça baisse.
Oui, ça baisse, notamment chez les hommes, c'est ça, qui sont nés au Canada, c'est les données de l'INSPQ, il y a une baisse parmi les hommes, il y a des rapports asexuels avec des hommes, en effet.
Bon, là, on semble dire que c'est peut-être juste un blimp, on va espérer, dans les statistiques, mais on sait que le Québec, comme beaucoup d'autres endroits dans le monde, ont signé, se sont inscrites dans ce fameux... C'est les objectifs de l'ONU-SIDA. C'est-à-dire qu'on voudrait que 95 % des personnes qui ont le VIH connaissent leur statut, 95 % de ceux-là ou celles-là sont sous traitement et 95 % sont indétectables, c'est-à-dire que sont intransmissibles, indétectables. Il y a pas assez, on fait une prise de sang et on ne trouve pas assez de copies de virus pour que ce soit dangereux. Ça, c'était en 2022. On était à 89, 82, 96. J'ai l'impression qu'on va rater la cible.
Ben, j'ai l'impression aussi, Denis Martin, je partage ton inquiétude, surtout qu'en 2020, on était à 90, 85, 96. Donc, on chute légèrement par rapport à ces objectifs-là de l'ONU-SIDA.
Ça s'explique comment? Excuse-moi, on va retourner, mais ça s'explique comment qu'on a chuté?
Ben, Je ne sais pas, ça c'est difficile à voir. Donc le premier pilier, c'est vraiment le dépistage. On voit qu'il y a moins de personnes qui connaissent leur statut. Donc je pense qu'il y a besoin d'améliorer le dépistage. Ouais. C'est quelque chose à prendre en compte. Je pense qu'il y a un problème d'accès encore au dépistage. Les gens ne sont pas encore assez sensibilisés, je pense. Et le deuxième, où le bas blesse, on est à 82%, comme tu l'as dit, c'est ceux qui connaissent leur statut mais qui n'ont pas accès au traitement. Donc je pense qu'il y a vraiment une barrière au niveau de l'accès au traitement qui existe encore. Cette barrière-là, ça peut être expliqué par le coût. Donc les personnes qui ont un bas revenu peut-être vont avoir peur d'aller voir leur médecin pour demander des traitements. Ça peut aussi, pour les personnes migrantes qui n'ont pas accès à la RAMQ, ça peut être vraiment une barrière. Ils n'ont pas accès justement au traitement. Puis peut-être un problème d'inclusion, les personnes qui ne se sentent pas à l'aise d'aller voir leur médecin, d'aller voir une clinique, un hôpital, parce qu'ils se sentent exclus. C'est peut-être aussi une des raisons du problème d'accès au traitement.
Je vais me permettre un commentaire pour aider les gens à comprendre. Moi, je prends des médicaments antirétroviraux. Ça me coûte à peu près, je pense que c'est 1400 quelques, mais en début d'année, je dois payer, on paye la fameuse franchise. Je suis capable de payer les 200 quelques dollars qu'on me demande pendant 3, 4 ou 5 mois. Mais les gens là, qui ont pas, c'est quand même beaucoup d'argent pour quelqu'un.
Oui, c'est quand même quelque chose à apporter tout de suite. Donc oui, c'est quelque chose qui peut vraiment être un frein.
Wow. Si on compare, on se console. Si on regarde au niveau mondial, l'ONUCIDA rapporte qu'en 2024, on va parler des chiffres de 2024, parce que ce sont leurs plus récents, il y avait 40 800 000 personnes vivant avec le VIH et que 1,3 million de personnes ont été nouvellement infectées cette même année. Ça va mieux ou ça va moins bien et pourquoi?
Alors, on aurait pu penser que ça allait mieux parce qu'il y a des nouveaux traitements, il y a des nouvelles méthodes de prévention qui sont sorties, qui ont l'air exceptionnelles. Mais malheureusement, le nerf de la guerre, c'est l'argent, puis l'argent manque. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de pays, dont les États-Unis, mais aussi le Canada, les pays européens, qui ont réduit leur contribution au Fonds mondial contre la lutte contre le VIH. Et à cause de ça, il y a moins de traitements, moins d'outils de prévention qui sont distribués sur le terrain.
Et ça cause beaucoup de problèmes. Puis je pense que je vais faire une autre parenthèse. Il y a l'accès à un des médicaments qui fonctionne très bien, ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. C'est un traitement qu'on prend avant d'avoir une relation sexuelle et qui réduit grandement, presque à zéro, les risques d'infection. Or, ce médicament-là, il n'est pas gratuit.
Non, il n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit au Québec. C'est quelque chose qu'on essaye de se battre pour qu'il soit gratuit, parce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Mais pour le moment, ça coûte une centaine de dollars par mois pour avoir accès à ces traitements.
Et puis il y a même présentement la Floride aux États-Unis qui nous annonce qu'il n'y aura plus de financement pour ces traitements-là. Alors même le Biktarvy serait plus financé là-bas. Ah, puis ça, c'est juste au sud de la frontière, hein, ça va pas bien. Tanguy, pour améliorer la situation, là, redresser la barre, puis atteindre ces objectifs de l'ONUCIDA, s'il n'est pas trop tard, qu'est-ce qu'on devrait changer concrètement?
Comme je disais, je pense qu'il faut un meilleur accès au dépistage. Je pense qu'une façon de le faire, c'est de laisser les intervenants communautaires faire le dépistage. Pour l'instant, c'est vraiment un débat qu'on a. C'est réservé aux professionnels de santé. Nous, on voudrait que aux communautaires, on puisse donner du dépistage. Il faut une meilleure information, une meilleure sensibilisation sur le dépistage. Il y a des gens qui ne se sentent pas concernés pour se faire dépister. Je pense qu'il faut que ça soit, qu'il y ait un message un peu global là-dessus. Multiplier les options de dépistage, ça peut être aussi intéressant. Il y a des autotests VIH qui existent, mais ils coûtent très cher. Donc peut-être essayer d'améliorer l'accès à ces autotests-là, ça peut être intéressant. Et comme je disais aussi, pour freiner cette barrière à l'accès aux soins, essayer de réduire la stigmatisation. Donc évidemment, il faut en parler, il faut des campagnes nationales, ça c'est toujours vraiment intéressant. Et on parle de coût, réduire le coût de la PrEP, réduire le coût du traitement, c'est aussi quelque chose d'assez primordial.
Est-ce qu'on peut ajouter aussi le fait qu'au Canada, ne pas divulguer son statut sérologique quand on est intransmissible, c'est toujours encore un crime. Bon, c'est pas toujours appliqué, mais c'est toujours encore un crime, donc ça contribue à la stigmatisation.
Oui, je pense que toute la criminalisation autour du VIH, ça nuit vraiment à ce que les gens se fassent dépister, parce que si on le sait pas, c'est bon, on va pas le transmettre. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Je pense pas que la répression criminelle, ça soit la solution là-dessus. Réduire la criminalisation, ça doit le côté pénal là-dessus, ça doit être aussi une priorité.
Puis c'est beaucoup pour ça que j'ai invité quelqu'un de la COXIDA aujourd'hui, parce que c'est vraiment important. Quel rôle la recherche communautaire peut-elle jouer pour influencer les politiques publiques?
Bien, je pense que la recherche communautaire, c'est une recherche par et pour les personnes concernées. Donc, soit les personnes vivant avec le VIH, soit les populations clés. Donc, on pense aux travailleuses du sexe, aux personnes utilisant des drogues, mais aussi aux hommes vivant... ayant des rapports sexuels avec des hommes. Je pense qu'il faut comprendre un peu ce que vivent ces populations-là, quelles sont les sources de stigmatisation, par exemple, quelles sont les barrières aux soins, quelles sont les barrières aux traitements qu'ils peuvent rencontrer ces personnes-là pour essayer de régler ces solutions-là. Mon but aussi, c'est de créer aussi des pistes d'intervention pour les organismes communautaires. Est-ce que les populations ont besoin de logement, de nourriture, ce genre de choses? Donc, c'est un peu
oui, parce que c'est un problème de santé, c'est global, c'est holistique.
C'est ça.
Et souvent, les d'autres entrants sont importants à considérer.
Si on a des problèmes pour se loger ou pour se nourrir, prendre des traitements ou penser à la prévention, c'est la dernière des choses auxquelles on pense.
Tout à fait. Peux-tu parler des autres ITSS? Parce que ça aussi, c'est dans le rapport. Et qu'est-ce qu'on constate?
Ce qu'on constate, c'est une hausse des cas de gonorrhée, de syphilis, notamment chez les femmes et notamment chez les personnes hétéros. Donc, il y a un changement aussi de visage parmi ces personnes-là. C'est plus réservé ou c'est plus en majorité les personnes, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais aussi les personnes hétéros. Je pense que il faut aussi dédiaboliser un peu toutes ces ITSS. Ces ITS-là, ce sont des infections qui peuvent se traiter très, très bien et très rapidement avec des traitements qui fonctionnent bien. Donc, en fait, d'en parler, je pense que ça pourrait juste contribuer à réduire la transmission.
Oui, il y a juste un peu la gonorrhée qui commence à faire peur parce qu'il y a des gonorrhées multirésistantes,
oui,
mais bon, c'est pas si grave là, pour le moment. J'oubliais quand même, il y a un point important, on a toujours parlé du VIH comme une maladie qui concerne les hommes, mais on se rend compte maintenant que dans l'hémisphère sud, c'est surtout les femmes.
Oui, il y a 53%, je pense, au total des personnes vivant avec le VIH qui sont des femmes. Dans l'hémisphère sud, c'est principalement des femmes. C'est vrai que dans les pays les plus développés, c'est plutôt des hommes. Mais oui, et ce qu'on voit aussi, c'est une augmentation du nombre de femmes en proportion de femmes ici qui vivent avec le VIH.
Et ça c'est parce que souvent, les traitements sont faits en fonction des hommes et pas toujours en fonction des femmes. Il y a beaucoup de travail à faire, là.
Oui, sur les effets secondaires, on ne sait pas trop pour les femmes. Il y a beaucoup de choses. Ou les femmes qui sont enceintes, est-ce que ça, c'est possible ou pas? C'est difficile.
Tanguy Edrich, j'espère que je prononce bien ton nom.
Oui, c'est bon.
Coordonnateur de la recherche communautaire à la COXIDA. Merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. Merci.
Au revoir.